Voilà, Père Nicolas Sautreau, bonsoir.
Bonsoir, chers amis, bonsoir, Jérôme. L'intitulé qui se permet d'être un jeu de mots, c'est « Signer Dieu ». Parce que lorsque nous allons essayer d'avancer dans notre lecture de Romano Guardini, nous allons découvrir deux grands aspects de sa doctrine spirituelle, sa belle réflexion sur les signes de Dieu, les signes sacrés, ce sera le début de nos émissions, les signes sacrés, pas seulement les sacrements, mais tous les signes sacrés. Et ensuite, signer Dieu, c'est la pensée de Guardini sur la révélation, le fait que Dieu lui-même a signé des textes, a signé des lettres, a signé la Bible lui-même pour qu'il soit un auteur divin qui nous permette de le connaître lui-même. Signer Dieu. Alors c'est une petite évocation d'une autre phrase qui se veut humoristique, que vous connaissez peut-être, « Dieu est mort, signé Nietzsche » et « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Il y a une des deux phrases qui est évidemment très vraie, puisque Nietzsche est mort alors que Dieu est vivant, Dieu est infiniment vivant. Voilà cette méditation pour cette année, « Signer Dieu ». D'une façon un peu providentielle, comme pour le livre « Dieu en nous » du père Raoul Plus, nous allons célébrer le centenaire d'un succès mondial, d'un best-seller mondial, puisque c'est en 1922 que paraît en allemand pour la première fois le livre « Les signes sacrés ». Et lorsque Romano Guardini écrit une nouvelle préface en 1965, donc 3 ans avant de mourir, il dit qu'il y a déjà 170 000 exemplaires qui ont été diffusés à travers le monde de son petit livre « Les signes sacrés ». Nous sommes pratiquement 60 ans plus tard. Alors vous imaginez, avec la publicité que Benoît XVI a donné à Romano Guardini en disant qu'il était son maître, qu'il était le théologien qu'il voulait imiter. Vous imaginez combien Romano Guardini a été traduit dans beaucoup de langues et diffusé. Donc nous fêtons ce centenaire, les signes sacrés. Comme d'habitude, mon but c'est de plonger dans le texte avec vous. Alors vous avez peut-être les moyens d'aller vous renseigner sur le père Guardini. Il est né en 1885 à Vérone, en Italie, d'où son nom italien, son prénom, quoi, ses prénoms, Romano, Michel, Antoine, Marie, Guardini, prénoms tous en italien, d'où aussi sa capacité à comprendre et à lire la langue italienne. Il sera un très grand spécialiste de Dante et de la Divine Comédie. Mais il n'a que 1 an lorsque ses parents arrivent en Allemagne, à Mayence, et il va faire toutes ses études en allemand, en Allemagne, des études qu'il va commencer dans le domaine des sciences dures avec la chimie. Voilà. Il aurait dû être chimiste, mais il connaît une première petite inflexion et il étudie la macroéconomie. Il aurait pu être économiste et finalement, Dieu l'appelle. Il devient prêtre diocésain. Il fait ses études de philosophie et de théologie. Il devient prêtre diocésain. Il est tout simplement vicaire dans des paroisses, mais on repère son intelligence hors du commun et sa spiritualité, et son évêque va le lancer dans les études à très long cours pour qu'il puisse se déployer dans la science des religions, de toutes les religions, et dans la grande théologie catholique. Pour terminer sur Romano Guardini, si vous allez sur YouTube, vous allez vous rendre compte que c'est une des gloires de l'Allemagne. On a un certain nombre de vidéos sur lui, en partie parce qu'il a été un résistant au nazisme. C'est quelque chose de très important, on peut bien le comprendre, qu'au moment, puisque vu qu'il est né en 1885, il avait l'âge de vivre le drame de la montée du nazisme et ensuite le drame de la Seconde Guerre mondiale pleinement, et il prend position, et en partie par ses homélies du dimanche qui vont rassembler beaucoup de monde, il fait une résistance très forte à l'idéologie nazie et au pouvoir nazi. cette gloire de l'Allemagne meurt en 1968 à Munich, et il va être ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup porté par l'affection filiale que lui voue Joseph Ratzinger, qui un jour deviendra Benoît XVI. En préparant les émissions, je me suis rendu compte que peut-être que je vais avoir tendance à parler de Guardini à partir de Benoît XVI. En fait, la façon dont Benoît XVI a compris Guardini, et on pourrait oser dire l'a un peu rectifié, a un peu changé des choses dans la pensée de Guardini pour la rendre peut-être encore plus percutante, encore plus pérenne. Donc, de temps en temps, certains auditeurs remarqueront peut-être qu'il y a cette façon d'interpréter Guardini grâce au développement, aux nombreux développements que Joseph Ratzinger aura écrit, aura pensé à partir de Guardini. Et voilà, j'en ai assez dit pour présenter un petit peu Romano Guardini et ce titre particulier signé Dieu. Et je vous propose de plonger dans les Signes sacrés, donc édité en 1922 en Allemagne. Les Signes sacrés, dans la préface qu'il réécrit en 1927, Romano Guardini dit: ce petit livre, ces simples petits articles que j'ai mis bout à bout, le jour où les grands maîtres, les grands théologiens, donc il considérait que lui n'était pas un grand théologien, parleront à leur tour des signes sacrés, en faisant appel aussi à leur expérience personnelle, alors ce petit livre pourra disparaître. Il considère vraiment qu'il n'a fait qu'ouvrir une voie et qu'après lui, des gens beaucoup plus spirituels, beaucoup plus saints et beaucoup plus intelligents, beaucoup plus savants que lui, vont reprendre ce qu'il a écrit, non pas reprendre pour s'en inspirer, mais pour faire mieux que lui. Et dit à ce moment-là, mon livre, plus personne ne le lira. L'histoire nous prouve que c'est le contraire qui va se passer. Et il dit, ben, en attendant que ce livre disparaisse, je crois qu'il a le droit et il a même le devoir de dire son petit mot et d'essayer de le faire le mieux possible. Voilà. C'est comme ça que se termine la préface de 1927. Et tout de suite, c'est le premier article du livre qui s'appelle Le signe de la croix. Le père Guardini s'adresse directement à nous et nous dit: vous faites le signe de la croix? Alors faites-le bien. Ne faites pas un geste estropié, trop rapide, un geste qui finalement n'aurait plus aucun sens. Non, si vous faites le signe de la croix, faites un signe de croix, un vrai. Lent, large, du front à la poitrine, d'une épaule à l'autre. Voilà la prise de position du front à la poitrine. Donc la poitrine, c'est le milieu du torse pratiquement. On voit alors l'amplitude du signe de la croix. Il commence vraiment sur le front avec la main droite et il va aller jusqu'à l'endroit présumé du cœur. Donc plutôt au milieu, n'oubliez pas que c'est un scientifique qui écrit, chimiste, mais qui aussi s'est intéressé à la biologie et à l'anatomie, et le cœur, il le sait, est plutôt au milieu de la poitrine que sur la gauche, et c'est là que la main va venir, ce qui signifie qu'on ne fait pas un signe de croix qui s'arrête trop haut, ou qui irait trop bas, ça n'aurait pas de sens non plus. Et ce qui va nous étonner, c'est que il critique ici la façon qu'on pourrait appeler baroque, la façon renaissance de faire le signe de la croix, alors que le grand signe de croix, les spécialistes nous disent qu'il apparaîtrait aux environs du 8e siècle. Avant, on ne faisait que le signe de croix avec le pouce sur son front, ou peut-être parfois aussi sur son cœur, mais le grand signe de croix apparaît plus tard. Et Romano Guardini nous dit, ne faites pas le signe de croix à la manière baroque, c'est-à-dire où finalement, comme on disait, on fait tenir une partie du signe de croix sur le rabat du prêtre. Donc la main descend très peu et elle va juste un tout petit peu à gauche, puis un tout petit peu à droite. C'est une grande prise de position pour demander que la pratique des gestes de la prière vienne suivre l'inspiration initiale de ces gestes, que nous ne laissions pas se dégrader les gestes extérieurs de la prière, que ce soit à force d'habitude ou par une forme de paresse même physique. Faites un grand signe de croix, non pas ostentatoire, là il s'agit plutôt du signe de la croix que l'on va faire pendant sa prière personnelle. Donc on a bien le droit de le faire comme on veut, et si nous voulons suivre cet enseignement, de le faire d'une façon vraiment large et paisible et approfondie. Le Père Guardini nous dit ensuite: sentez-vous combien ce geste vous enveloppe. Oui, la finalité, c'est d'être enveloppé par la croix du Seigneur Jésus, comme on est enveloppé par le Saint-Esprit. Il y a un mystère d'être totalement saisi, d'être entouré par la présence de Dieu, d'être entouré par la présence du Saint-Esprit, qui doit venir vivifier notre manière d'accomplir ce geste de la croix sur une bonne partie de notre personne physique. Recueillez-vous et rassemblez dans ce signe de croix toutes vos pensées et tout votre cœur. Vous sentirez, alors pas au sens émotionnel, vous éprouverez combien ce signe vous saisit, vous consacre et vous sanctifie. Tout signe de croix a un lien avec le sacrement du baptême. C'est cela que va vouloir nous exprimer ici cette attention au signe de la croix. Et ce signe de la croix, dans notre façon de le pratiquer habituellement, a cette caractéristique qu'il est souvent associé à des paroles qui ne parlent pas de la croix. On pourrait s'attendre à ce que nous disions quelque chose qui soit en référence avec le salut par la croix. Par exemple, on pourrait redire la parole salut aux croix, notre unique espérance, pendant que nous traçons sur nous le signe de croix. Ou bien tu nous as sauvés, Seigneur, par ta croix. Non, avec la profondeur baptismale de tout signe de croix, nous redisons les paroles de la formule du baptême dans la personne du Père, dans la personne du Fils, dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous avons été plongés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pendant que nous traçons le signe de la croix, nous redisons ces paroles d'immersion dans la Trinité sainte et salvatrice, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous ratifions par le Amen. Le signe de la croix va nous saisir, nous consacrer comme le baptême et nous sanctifier comme le baptême. Pourquoi une telle force dans le signe de la croix? C'est le signe de tout, le signe de la rédemption absolue, la rédemption éternelle. Sur la croix, le Seigneur Jésus sauve l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous sommes enveloppés. Par la croix, le Seigneur Jésus sanctifie tous les hommes jusqu'au plus profond de leur être. Oui, il y a une certaine manière d'appuyer, encore une fois sans en faire des tonnes, hein, sans que ce soit ridicule, il y a une certaine manière d'appuyer la main sur le front, sur le cœur et sur les épaules qui veut faire comprendre cette profondeur du signe imprimé en notre âme par la rédemption du Seigneur Jésus. Il y aurait une manière de d'effleurer simplement son corps, encore une fois le front, le cœur et les épaules, qui peut-être ne rendrait pas justice à cette belle idée d'être marqué du sceau, d'être imprégné, comme une pression de la grâce de la résurrection, de la grâce de la rédemption sur nous-mêmes, qui est symbolisée par la véritable pression qu'exercent nos mains et nos quatre doigts réunis, qui viennent appuyer sur nous-mêmes, qui viennent comme nous pousser en Dieu, si vous voulez, et qui viennent manifester qu'il y a une force qui nous rencontre et une force qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes sanctifiés jusqu'au plus profond de notre être par la rédemption dans le Christ Jésus. C'est sur la manière générale de faire ce geste du signe de la croix. Maintenant, il y a les moments. Nous le faisons avant la prière. Alors, il est exact que c'est une habitude. Alors, comment appeler ça autrement qu'habitude? C'est un rite, c'est une coutume, c'est aussi une espèce d'obéissance aux plus anciens qui nous ont ouvert les voies de la prière et qui, devant nous, ont fait le signe de la croix au moment d'entrer dans la prière. Avant la prière. Avant la prière ou comme première prière. Je crois que c'est toujours très important de dire que lorsqu'il s'agit encore une fois d'une prière privée, on n'est pas dans la liturgie à ce moment-là. Le signe de la croix, en étant en même temps avant la prière, est déjà la prière. C'est la première prière. Alors pour Romano Guardini, il s'agit là d'étouffer les bruits qui nous entourent, de nous préparer et de nous saisir tout entier. On est dans cette même idée de l'enveloppement, et cette fois-ci, un enveloppement qui vient de nous, d'une certaine manière, nous protéger des agressions extérieures. Alors, en particulier les bruits, en particulier les nuisances sonores qui peuvent être là et dont il faut s'abstraire. Sinon, elles vont empêcher le recueillement, elles vont empêcher la profondeur de la prière. Nous sommes préparés par le signe de la croix, nous sommes saisis et nous remettons notre cœur, notre imagination et notre volonté. Il y a un lien entre, encore une fois, ce signe de la croix avec toute la main et sur une bonne partie du corps et les trois signes de croix que nous faisons uniquement avec le pouce droit sur le front, sur les lèvres et sur le cœur au moment où nous allons écouter l'évangile pendant la liturgie. Il s'agit de repousser au loin les bruits pour que l'intelligence, l'imagination, la volonté et la parole soient emportées dans la lumière et dans le feu de l'évangile du Seigneur. Eh bien, par transposition, chacun de nos signes de croix a cette vocation de préparer et de consacrer nos sens pour que nous puissions être immergés dans la prière, dans la relation avec le Seigneur. Nous pouvons aussi faire le signe de la croix après la prière. Il peut être une manière de conclure la prière. Il y a eu une époque où on s'est un peu battu contre le signe de croix à la fin de la prière en disant qu'il ne fallait pas refermer la prière, qu'il fallait éviter l'idée d'une parenthèse. Donc on ouvre la prière avec le signe de croix et on la referme bien pour cloisonner la prière du reste de la vie. C'était une lecture particulière de ce signe de la croix qui termine la prière, mais il peut ressembler, ce signe de la croix, à la bénédiction finale de la messe, dont un des sens très forts est de demander à Dieu de bénir la communion que nous venons de vivre. Cette bénédiction se place après la communion, elle se fait sur l'assemblée qui vient de communier, qui a son Seigneur qui est présent en chacun de ses membres par la communion au corps et au sang ressuscité du Seigneur Jésus, et nous demandons au Seigneur de venir bénir, de venir fortifier, de venir déployer, consacrer cette communion eucharistique. Et là, il y a une même manière de tracer en bénédiction le signe de la croix sur nous-mêmes après la prière, pour demander que demeure en nous, se développe en nous, s'affermissent en nous toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les lumières reçues pendant ce temps de prière. Donc il y a une pertinence à ce signe de croix à la fin de la prière. Non pas comme un jingle de fin pour dire maintenant c'est terminé la prière, on passe aux choses sérieuses, mais comme une demande au Seigneur de fortifier ce qui a été reçu et bien au contraire de lui demander d'en finir avec la prière, de demander que cette prière maintenant se répande dans toute la vie, qu'elle vienne imprégner la suite de ce temps de prière. Le Père Guardini nous dit que nous utilisons aussi le signe de la croix dans la tentation pour que nous soyons fortifiés. Le lien avec le rituel du baptême est là aussi extrêmement limpide. C'est la croix qui nous défend contre les forces du mal. La croix, le signe de la croix dans le danger, pour que nous soyons protégés par la rédemption du Christ, par la présence du Christ. Et le signe de la croix aussi pour nous bénir nous-mêmes. Voilà. Il y a une possibilité qui nous est donnée de nous bénir nous-mêmes. C'est quelque chose de merveilleux, un temps de mystérieux, puisque habituellement nous demandons que la bénédiction arrive par quelqu'un d'autre, arrive par quelqu'un de consacré ou quelqu'un de proche qui est en état d'amitié. Eh bien non, il y a cette bénédiction sur nous-mêmes. Nous bénir nous-mêmes, afin que la plénitude de la vie de Dieu entre en nous, qu'elle féconde et qu'elle consacre toutes les puissances de notre être, en particulier la mémoire, l'intelligence et la volonté. Le prédicateur Guardini termine en s'adressant à nouveau à nous. Songez-y, chaque fois que vous faites le signe de la croix, un très saint signe de croix. Faites-le bien, faites-le lent, large et attentivement. Ainsi, il va envelopper tout votre être, intérieur et extérieur, vos pensées, vos volontés, votre cœur, vos cinq sens, tout. Il va fortifier votre être, le consigner, le consacrer, le sanctifier par la force du Christ Sauveur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà. Père, je vous redonne la parole. Il y a également une personne qui est en attente pour une question.
Alors, j'écoute la question.
Alors, il s'agit de Roselyne. Voilà, Roselyne, vous êtes à l'antenne.
Bonsoir, Père Nicolas.
Bonsoir, madame.
Voilà, bonsoir. Voilà, il y a un assez long temps, j'avais vu une vidéo sur Charbel Maclouf, c'est Charbel Maclouf, oui. Sous-titré. Et il avait l'habitude de faire le signe de croix en faisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à la fin, il disait « Un seul Dieu, Amen ». Et alors, j'ai pris cette habitude, je ne sais pas si c'est bien. Il disait « Un seul Dieu » à la fin.
Eh bien, c'est beau. Il faut être sûr que c'est vrai, que c'est comme ça qu'il faisait.
Oui.
C'était
vraiment touchant.
Ça peut être aussi sa tradition liturgique, puisque c'était un moine maronite. Ce serait intéressant de voir si ça appartient à sa tradition liturgique. Le tout étant de garder, à mon avis, la concision et la sobriété de notre liturgie, qui fait qu'on peut répéter beaucoup de fois un geste sans qu'il soit tellement long à faire ou compliqué, et que du
Oui.
coup on risque de le faire moins souvent. C'est un petit peu un des
D'accord.
secrets de la liturgie romaine, c'est que si on compare avec certaines liturgies orientales, elle est plus brève, beaucoup plus brève, et
Ah,
ainsi on
d'accord.
la renouvelle plus souvent. Donc si vous,
D'accord.
ça n'a pas cet impact-là, c'est très beau, puisque c'est évidemment la confession de foi,
Oui.
mais il est vrai que
Il faut pas
lorsqu'il
que
y
ça
a...
me gêne, quoi.
Voilà, et il faut penser quand il y a la fatigue, et puis après il y a l'uniformité, de
Oui,
pouvoir
mais à la messe,
passer
je
pour un
le
peu
fais
long.
pas. Je le fais quand je prie seule.
Voilà.
Parce qu'à la messe, j'ai pas le temps de dire un seul Dieu. On dit Amen et voilà.
Quand on l'a dit plusieurs fois, dans la spiritualité, la grande règle, c'est qu'il n'y a pas de règle qui s'impose. C'est que
Oui.
l'Esprit Saint a le droit de faire absolument ce qu'il faut. La
Oui.
seule chose, c'est que, encore une fois, lorsqu'on prend des formules qui sont extrêmement concentrées, extrêmement simples, on peut les faire beaucoup plus lentement et beaucoup plus, intensément.
Oui.
Mais là, c'est pas très très long ce que vous rajoutez.
Non, il me semble que je le fais intensément, moi, en signe de croix, je sais pas.
Mais oui, mais je ne suis pas en train de
Parce
dire que vous ne le faites
que
pas
je trouve que c'est
intensément.
beau, un seul Dieu, c'est beau.
Eh bien, que les auditeurs recueillent votre héritage de Saint Charbel Maclouf et qu'ils
Oui.
puissent se demander si ça leur ferait pas du bien, au moins de temps en temps, y compris pour se renouveler, de rajouter aussi cette formule-là.
Ah,
Le Père, le
merci.
Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu.
Ah oui, c'est beau, oui.
Et
Merci,
puis prions
Père
Saint
Nicolas.
Charbel. C'est le curé d'Ars
Oui,
du Liban.
il fait
Nous
beaucoup
l'aimons.
de miracles en ce moment, il paraît.
Ici à Ars, nous l'aimons énormément parce que c'est vraiment le curé d'Ars du Liban. C'est
Ah
quelqu'un de
oui, tout
merveilleux.
à fait. Oui,
Merci de votre
merveilleux, oui.
témoignage, en tout cas.
Merci, merci, au revoir.
Bonne soirée.
Voilà, Père, je vous laisse reprendre.
Alors, on va laisser le Romano nous causer. Par gentillesse, l'émission est entièrement en français. Hein. Je ne vous donne pas le texte en allemand, parce que je sais que certains l'ont réclamé, mais ça ferait un petit peu trop, un peu trop recherché, un peu trop farfelu de vous faire le texte en allemand. On sait que le père Romano Guardini écrit un allemand très pur, pas toujours très facile, mais très pur, très littéraire, très agréable. Dans la traduction, la suite du texte, cela donne cela. La main. Voilà, le deuxième article, c'est la main. Le corps tout entier est un instrument et une expression de l'âme. L'âme ne se tient pas sous le corps comme quelqu'un serait dans sa chambre. L'âme remplit tout le corps, elle agit par toutes les fibres du corps. L'âme parle par la moindre attitude du corps. Ça, c'est vrai, en bien ou en mal, hélas. Si on est vraiment attentif à son prochain, l'attitude du corps nous révèle beaucoup de choses. L'âme parle aussi par le moindre des gestes de la personne. Et là, le père Guardini donne son opinion. Selon lui, rien ne sert et ne reflète mieux l'âme que les mains et le visage. Voilà, c'est sa position. Son approche, sa conviction, les mains et le visage. Laissons le visage parce que c'est trop évident. On verra qu'il y reviendra. Mais parlons maintenant de la main. Il y a une explication liturgique à cette affirmation un peu tranchée, un peu carrée du père Guardini. C'est que pour les ministres de la liturgie, le fait d'avoir l'aube, pendant une bonne partie des fonctions sacrées, fait qu'il ne reste plus finalement de visible que les mains et le visage. Le reste du corps est enveloppé par l'aube, les pieds peuvent pratiquement disparaître aussi, et il reste d'apparent du corps, de visible, de charnel, le visage. Les cheveux dont il faut s'occuper, c'est une des choses pas amusantes du tout quand on revêt et qu'on retire son aube plusieurs fois dans la journée. Mais bon, les cheveux n'expriment pas grand-chose quand même. Peut-être le soin, peut-être la recherche. Mais il y a le visage, très visible, et les deux mains. Le père Guardini nous dit, soyons un peu original, parlons des mains. Étudiez un homme, vous-même par exemple. Il n'y a pas de sentiment de joie, de surprise, d'attente qui ne se traduisent aussitôt dans la main. Alors, ceux qui aiment bien taquiner ont rétorqué au père Guardini, eh bien là, vous n'arrivez pas à cacher vos origines italiennes. Vous parlez avec les mains, vous parlez énormément avec les mains. Pour lui, c'est vraiment une qualité, une très grande qualité, et ça va devenir une qualité de prière et une qualité liturgique. Prenons l'exemple de l'index. L'index qui s'élève, même l'index qui peut nier, qui peut dire non, avec le signe du doigt, cet index va parler plus fort que la parole quand il va s'agir de nier ou d'arrêter quelqu'un. Le mot ne semble-t-il pas parfois comme un peu grossier si on le compare au langage tellement discret, tellement expressif de la main? Après le visage, selon moi, c'est la partie du corps la plus spirituelle. Là, il y a encore une explication liturgique toute simple. C'est ce rite impressionnant qu'a vécu Romano Guardini pour lui-même aussi, de l'onction des mains avec le Saint-Crème le jour de l'ordination sacerdotale. Ce sont les mains du prêtre qui sont consacrées, qui sont arrachées à la vie quotidienne pour être placées en Dieu, parce que ce sont les mains qui vont faire, on pourrait dire, fabriquer l'Eucharistie, qui vont faire les sacrements, qui vont faire les bénédictions. Ce sont les mains qui vont appeler, lorsqu'elles deviennent instruments de l'épiclèse, ce sont les mains qui vont appeler liturgiquement, sacramentellement ou spirituellement le don du Saint-Esprit sur ceux sur lesquels elles sont imposées. Elles sont mises en une sorte de protection, une sorte de bouclier de la grâce, les ailes de Dieu qui se déploie au-dessus de la personne qu'on est en train de bénir ou de consacrer pour que le Seigneur vienne prendre la personne sous sa protection et sous sa grâce. Voilà pourquoi, après le visage, les mains sont la partie du corps la plus spirituelle. Pour travailler, pour se défendre, les mains sont une force et une puissance. Et pourtant, quelle finesse! Quelle admirable organisation, quelle mobilité, quelle prise vibrante sur le réel que les mains. Les mains sont une voie pour donner son âme à Dieu. Voilà ce que va vouloir nous dire le père Guardini dans la suite de ce texte. Un chemin pour donner son cœur au Seigneur. Et en même temps, pour recevoir le cœur d'autrui. La main sert à offrir, à donner, et elle sert aussi à recevoir. Souvenons-nous, jamais à prendre, jamais à saisir. C'est le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens qui nous a dit et redit cela. Le Christ Jésus, étant de la condition de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec le Père comme une proie à saisir avec la main. Jamais cette attitude de la main crochue qui vient saisir, qui vient attraper pour attirer jusqu'à soi. La main doit être soit en état d'offrande pour donner, soit en état d'accueil pour recevoir. Elle doit toujours être dans le donner et le recevoir, et jamais dans le prendre, le voler, le arracher, le saisir avec véhémence et avec indélicatesse. Est-ce que ce n'est pas saisir le cœur, l'âme, l'intériorité du prochain que de saisir ces deux mains qui se tendent vers nous? Voilà. C'est un des aspects du baiser fraternel qui se fait aussi avec les mains. Avec tout ce qu'elle révèle de confiance, ses mains, de joie, d'abandon et même parfois de douleur. La main doit donc avoir son langage durant la prière. C'est un refrain du Père Guardini. Nous devons veiller sur nos mains pendant la prière. Elles doivent avoir une participation particulière à la prière. Quand l'âme écoute Dieu, les mains doivent être dans une attitude particulière. Quand l'âme parle à Dieu, les mains aussi doivent adopter une position qui reflète cette parole adressée à Dieu. Et quand nous sommes à donner quelque chose à Dieu ou à recevoir Dieu lui-même, nos mains doivent avoir une attitude qui convienne. Quand on se recueille en soi-même, quand dans son cœur on est seul à seul avec Dieu, d'elles-mêmes, les mains vont se joindre et les doigts vont s'entrecroiser. Là, Romano Guardini recueille en particulier l'héritage de Sainte Thérèse d'Avila, qui avait des paroles, qui avait des idées très précises sur le pourquoi de ses mains jointes pendant l'oraison, pendant le temps de l'oraison. Il y a une méditation sur ce qu'affirmait Sainte Thérèse d'Avila. Donc les deux mains se joignent, et parfois aussi les doigts s'entrecroisent pour que la jonction soit encore plus forte. Quand on se recueille en soi-même, quand dans son cœur on est seul avec Dieu. Un des symboles, ce sont les flots de la vie qui viennent du fond de notre être, comme une fontaine qui sortirait de terre, comme il en existe en Terre Sainte, et qui voudrait s'échapper de nous, mais qui là vont passer d'une main dans l'autre pour revenir à l'intérieur. C'est ça la pensée de Sainte Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que tout doit rester dedans, près de Dieu. C'est une interprétation parmi d'autres, mais elle est éclairante. Le cercle se referme, et sans être dans les théories au sujet d'énergie, au sujet de flot d'énergie, de flux d'énergie, voire de fluide d'énergie, il y a cette belle image de la vie qui va vouloir circuler, et une image qui évidemment s'élève jusqu'au mystère de la vie trinitaire, où on parle de la circulation de vie, d'être, d'amour et de lumière entre les trois personnes divines. De ce mystère du Père qui est la source, qui est l'origine, et qui se donne au Fils, et que le Fils redonne au Père en se donnant lui-même dans une sorte d'Eucharistie éternelle qui est une relation subsistante, la personne même du Saint-Esprit. Cette lumière sur la circulation de la vie en Dieu lui-même. Eh bien, ces deux mains qui se joignent et qui peuvent même se serrer, et se serrer avec force, rappellent que tout va se passer à l'intérieur, près de Dieu, parce que Dieu est là, au centre le plus profond de mon être, au centre le plus profond de mon âme. C'est un des symboles du recueillement, la garde de Dieu, le Dieu caché. Et cette attitude peut vouloir signifier « Dieu est à moi », quelque chose d'absolument inouï, oser dire cela, « Dieu est à moi parce que je suis à Dieu et nous sommes unis l'un à l'autre, un peu comme ces deux mains sont unies l'une à l'autre et se communiquent l'une à l'autre leur présence et puis, avec la grâce de Dieu même, leur chaleur et leur amour. C'est sur cette évocation de la Sainte Trinité, comme pour le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette évocation de la Sainte Trinité et que je vous laisse avec les pensées du Père Guardini. Les signes de Dieu sont des signes sacrés et Dieu veut nous parler par ces signes. Bonne semaine à vous.
Merci beaucoup, Père. Très belle semaine à vous. À lundi prochain.
Si Dieu veut.
Si Dieu veut. Au revoir.